Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec France Culture et un autre jour est possible en ce lundi 2 mai 2016. Il y a quelques mois, je vous conviais à une traversée du Sahara en compagnie de Michel Pierre, traversée depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Cette semaine, on poursuit notre traversée du Sahara, mais avec une deuxième époque, une époque qui commence avec les conquêtes coloniales jusqu'au Sahara d'aujourd'hui, l'état du désert aujourd'hui. C'est donc notre série de la semaine. Michel Pierre, l'historien, est avec nous dans un instant, l'épisode numéro 1. Et puis pour rester dans la thématique du désert, je recevrai en deuxième partie le groupe Kel Assouf, un groupe targhi ou de musiciens touareg qui font une musique assez particulière, parce que si on retrouve toutes les gammes de la musique targhi, il y a aussi du rock derrière qui secoue cette musique du désert. Kel Assouf, mes invités, tout à l'heure aux alentours de 6h15. Mais tout de suite, tête chercheuse avec Michel Pierre, historien.
Une traversée du Sahara avec Michel Pierre.
Une traversée du Sahara, deuxième période, avec l'historien Michel Pierre, auteur entre autres ouvrages consacrés au Sahara, Sahara le grand récit aux éditions Belin. Bonjour Michel Pierre.
Bonjour.
Il y a quelques mois, il y a 2 mois, vous nous aviez fait le grand récit du Sahara depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée des Arabes, la conquête musulmane, et puis aussi les premières rencontres avec l'Occident, l'Europe, c'est-à-dire les commerçants italiens, les navigateurs portugais. Cette semaine, on va parler du Sahara à travers le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. On va commencer par les conquêtes coloniales.
Oui, le Sahara, à la fin du 19e, début du 20e, est l'un des espaces de l'Afrique qui va totalement passer sous la coupe des puissances européennes. Bon, essentiellement la France, mais aussi la Grande-Bretagne par rapport à l'Égypte et au Soudan, l'Espagne pour quelques lambeaux du sud marocain, et l'Italie qui va partir à la conquête de la Libye. Donc on a un territoire qui devient entièrement colonisé avant la Première Guerre mondiale.
Alors la conquête de l'Algérie, la colonisation de l'Algérie date de 1830 et pourtant le Sahara ne sera pas tout de suite occupé par les forces françaises.
Non, c'est un temps finalement assez long et assez court de domination française. C'est vrai, comme vous le dites, la prise d'Alger c'est 1830, mais le contrôle à peu près complet du centre du Sahara par la France, c'est-à-dire le Hoggar, c'est une bataille qui se déroule en 1902. Donc entre 1830 et 1902, vous avez un long processus d'approche de ce Sahara qui va devenir français, et une période de domination qui est finalement à l'échelle d'une vie humaine entre 1902 et l'indépendance de 1962. Donc on a deux choses, une conquête très progressive, très lente, et finalement un temps assez court de présence et de contrôle.
Alors là, on ne parle pas encore de l'or noir. L'Algérie utile, c'est plutôt le nord. Mais pourquoi cet appel du sud est irrésistible pour les Français ?
Il y a toujours eu un appel du Sud, ce que déjà raconte Eugène Fromentin, le peintre et néanmoins écrivain, qui publie Un été au Sahara et Un été au Sahel. Il y a une attirance d'aller vers le Sud. Et puis, il y a aussi l'idée de contrôler toute cette Afrique, puisque en même temps, dans le Grand Sud, la France, à partir du Sénégal, va faire la conquête de ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, le Niger et le Tchad. Donc vous avez un axe de pénétration français qui part de la côte et qui va vers le lac Tchad et qui, logiquement, appelle un croisement avec le nord, avec l'Algérie. Donc on va de plus en plus, au fur et à mesure que passent les années, avoir l'idée de faire la jonction entre une pénétration ouest-est et puis un axe nord-sud. Sud, et donc le Sahara est en croisement de ces deux axes de présence, de colonisation et de conquête, va être quelque chose qui n'a pas un intérêt économique considérable, mais qui a un véritable intérêt stratégique, qui est aussi de donner à la France une forme de prééminence sur cette partie de l'Afrique.
Et alors, comment ça se passe justement concrètement, Michel Pierre ?
Concrètement, c'est très progressif. Il y aura d'abord un contrôle des oasis d'un axe Tougourt, El-Oued, etc. Et puis, petit à petit, on va descendre vers Insala. On va avoir aussi le projet, le fameux projet du Transsaharien. D'ailleurs, c'est une conquête qui est à la fois une idée militaire, mais une idée technique, avec le projet d'un chemin de fer qui partirait en gros d'Alger et qui irait jusqu'à Bamako et qui rejoindrait un autre chemin de fer qui viendrait, lui, de la côte. Donc très tôt, dès les années 1860, on va avoir cette idée de chemin de fer. Il faut bien voir que pour la France, l'idée présente aussi pour le gouvernement français, c'est de faire, à l'exemple des Américains qui viennent de terminer leur transcontinentale et des Russes qui ont commencé les portions de leur transsibérien, la France coloniale pense vraiment à un transsaharien, et donc il faut des reconnaissances de terrain pour préparer le trajet de ce chemin de fer, et c'est là qu'arrive une véritable catastrophe, c'est que l'une de ses missions est victime d'un véritable massacre en 1881, la mission du colonel Flatters qui dirigeait cette reconnaissance en quelque sorte devant préluder à l'installation de ce chemin de fer, qui est massacré par les Touaregs, et ce sera un véritable choc en France, une émotion dont on n'imagine pas la force aujourd'hui et qui va pendant presque 20 ans retarder cette présence militaire française qui va recommencer et être vraiment présente à partir du moment où la France prend aussi le contrôle de Tombouctou, de s'approcher du lac Tchad, où là vous avez une seconde expédition avec une force bien plus considérable qui va réussir la jonction, la première vraiment réalisée par une expédition militaire, la mission Fourolami, qui va vraiment traverser le Sahara non sans difficulté et rentrer jusqu'au centre de l'Afrique, jusqu'à atteindre le lac Tchad.
Comment vont réagir les peuples du Sahara à l'arrivée des militaires français ? Quand je dis les peuples du Sahara, je parle bien sûr des indigènes, mais aussi des Arabes qui avaient déjà fait la conquête de cette partie du monde.
Pour ce qui est de la présence française et de la conquête du Sahara, ce sont surtout un certain nombre de groupes Touaregs qui, sentant venir cette menace, avait déjà signalé du temps de Flatters en 1881 qu'il fallait mieux pas dépasser une certaine limite, sinon on risquait de gros ennuis, ce qui s'est avéré juste. Ce qui fait que là, c'est vraiment le monde Touareg qui va s'opposer à la présence française, et avec des affrontements, des tiraillements, jusqu'à ce qu'en 1902, très précisément, non loin de Tamanrasset, c'est une bataille, une ultime bataille, mais une bataille qui met en présence des effectifs relativement réduits, puisque vous avez 300 méharistes de la noblesse Touareg qui vont tenter de battre une modeste colonne, pourrait-on dire, d'une centaine de recrutés venant de l'Algérie du Nord, avec un seul sous-officier français et simplement ces chambas du Nord, puisqu'en l'occurrence c'était des troupes indigènes, comme on disait à l'époque, étaient supérieurement armées en termes de fusils par rapport aux Touaregs. Et lors de cette bataille de Tite, en 1902, vous avez le tiers des effectifs de cette noblesse Touareg qui va rester sur le sol. Et à partir de là, c'est une forme de cassure, c'est-à-dire la résistance touareg est vraiment brisée en 1902. À partir de là, la France va, en particulier dans le Haut-Gard, s'installer durablement. Non sans que les Touaregs ne retentent une grande révolte en 1916-1917.
Alors c'est l'époque de la colonisation, ça vous l'avez dit Michel Pierre, la France va s'installer dans cette partie du Sahara pendant que l'Angleterre, elle, achève son contrôle sur le sud égyptien et le Soudan, l'Espagne arrachant quelques lambeaux dans le sud de Marocain, le Sahara occidental, et puis l'Italie qui se lance dans la conquête de la Libye. Est-ce que toutes ces puissances se partagent le gâteau, se partagent le désert?
Les deux puissances méditerranéennes que sont l'Italie et l'Espagne n'ont effectivement, comme vous le dites, que quelques lambeaux de territoire. Là où ça aurait pu être un peu éventuellement difficile, c'est entre la Grande-Bretagne et la France, mais la Grande-Bretagne contrôlant, j'allais dire, l'axe égyptien, le Soudan, et puis bien plus au sud, tout le côté oriental de l'Afrique, le gouvernement britannique va laisser sa grande part du Sahara à la France. Comme le disait le Lord Salisbury, le coq gaulois aime gratter le sable. Donc on va laisser le sable aux Français, dont personne n'imagine à ce moment-là qu'il peut recéler un certain nombre de richesses. Et puis c'est un continuum entre le Sénégal, le Soudan, le Tchad et le nord de l'Algérie. La France réalise là une véritable, la grande tache rose des cartes de l'Empire colonial.
À quel moment on peut parler du Sahara français et quelles vont être les premières années justement du contrôle français sur cette partie du monde, Michel Pierre?
Disons que le contrôle est effectif dans les années 1910. Alors il est partagé entre plusieurs ministères, pourrait-on dire. Vous avez le Sahara algérien qui dépend d'Alger, et comme l'Algérie c'est la France en quelque sorte, c'est aussi le ministère de l'Intérieur français qui contrôle, qui est présent dans cette administration qui est liée véritablement à la France. Pour les autres territoires du Sahara,
c'est-à-dire la Mauritanie, le Soudan, le Tchad.
Alors la Mauritanie et le Soudan, ce sera l'Afrique occidentale française, et pour ce qui est du Tchad, ce sera l'Afrique équatoriale française. Tout cela dépendant aussi d'effectifs militaires et en particulier d'officiers qui n'ont pas le même uniforme, qui n'ont parfois pas tout à fait la même origine sociale ni le même recrutement. En gros, les compagnies méharistes de l'aile du Sahara algérien, c'est ce qu'on appelle les képis bleus, et puis les groupes nomades du Tchad, du Soudan, sont un képi qu'on dit le képi noir. Et les relations entre ces deux effectifs qui appartiennent pourtant à la France sont parfois extrêmement difficiles, c'est-à-dire tracer les frontières entre ce qui était le Sahara algérien et puis ce qui était le Sahara de l'AOF et de l'AEF a pas été sans tiraillement ni sans véritable crispation entre les militaires qui appartenaient pourtant à la même nation.
Et qu'en est-il du sud tunisien et du sud marocain, sachant très bien, Michel Pierre, que ce problème de frontières continue à persister jusqu'à aujourd'hui avec le problème du Sahara occidental notamment?
Alors là, on est lié à l'instauration des protectorats sur la Tunisie et sur le Maroc, qui appartiennent à un autre moment de la présence française, 1881 pour la Tunisie, et 1912 pour le Maroc. Mais nous sommes à ce moment-là sur des Saharas moins considérables que celui en particulier de l'Algérie. Et cette présence française au Maroc a laissé laisser en quelque sorte à demeure pendant un moment une présence espagnole ancienne basée sur des implantations sur la côte et qui, elle, remonte à une histoire quasiment des grandes navigations.
Et pour terminer, qu'est-ce qui frappe ces premières années du contrôle français?
C'est assez... dans un premier temps, on a quand même un certain nombre de témoignages de militaires et d'officiers, cette présence française n'est pas favorable à l'économie locale. L'économie Touareg avait été longtemps une économie de contrôle sur les caravanes. À partir du moment où vous avez une nouvelle puissance qui arrive, ce contrôle des Touaregs, un droit de passage, voire des razzias, des pillages, ne peut plus exister. Donc vous avez véritablement un problème de survie, en quelque sorte, pour cette économie traditionnelle. De plus, la présence française, ces groupes méharis, nécessite un certain nombre quand même, et assez considérable, de dromadaires pour contrôler le territoire. Donc il y a une ponction de l'armée française qui désorganise vraiment cette économie extrêmement difficile, avec des groupes peu nombreux, mais c'est justement une économie fragile. Et cette première présence française, même si petit à petit il va y avoir un certain nombre de soins qui vont être apportés à la population, etc., avant la Première Guerre mondiale, et on a quand même de nombreux témoignages, eh bien la misère est là. La désorganisation d'une économie traditionnelle par cette présence coloniale a entraîné des famines, des moments extrêmement difficiles. Ce sera par la suite corrigé, mais avant la Première Guerre mondiale, on peut quand même pas parler d'effets bénéfiques pour évoquer des phrases trop entendues.
Merci beaucoup Michel Pierre. Demain, suite de notre série, suite de notre traversée, et demain, on verra comment le Sahara va jouer un rôle très particulier dans la mythologie coloniale française. À demain.
همان نغلاب يا هضوا دغا اسوف ادوان يا هضوا دا اسوف ادوان
Un autre jour est possible par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Il faut imaginer le désert aujourd'hui et des jeunes qui écoutent cette musique. C'est un extrait du dernier album de Kel Assouf et nous recevons aujourd'hui Anana Haruna. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc le leader de ce groupe Touareg établi à Bruxelles et Sofiane Banyoussef au clavier. Vous avez réalisé cet album.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Alors, on vient d'écouter un extrait de l'album. Ça parle de quoi ?
Lab, c'est une chanson d'amour qui parle de la nostalgie, en fait, un manque.
Un manque du désert ?
Un manque, un manque de...
Ou de la personne aimée.
De la personne et aussi de s'imaginer en plein désert, dans un espace vraiment vide. Et envahi par une nostalgie, en fait, d'une personne.
Est-ce que vous avez commencé votre carrière musicale au Niger, Anana Haruna ?
Je commençais à jouer au Niger dans les années 94, mais j'ai monté le groupe ici à Bruxelles, en fait, en arrivant à Bruxelles, que j'ai monté le projet Kel Assouf.
Avec des musiciens qui n'étaient pas Touareg ou...
Donc au début, en fait, voilà, quand je suis arrivé, donc j'ai cherché des musiciens, j'ai fait une annonce, donc j'ai rencontré pas mal de musiciens, donc on jouait, donc en fait, voilà, il y a eu beaucoup vraiment de musiciens qui ont passé sur ce projet, et que, voilà, c'est comme, en fait, à la recherche de quelque chose qu'on ressent et qu'on n'est pas toujours satisfait, en fait. Donc, jusqu'à, voilà, qu'on a fait le premier album Tin Hinan avec d'autres musiciens. Et, Et ses derniers albums aussi, c'est notre son, un peu plus rock, qui était vraiment...
Que j'aime beaucoup,
vraiment beaucoup rock, que j'aime beaucoup. Et grâce aussi à la rencontre avec Soufiane, lors d'une tournée. Donc, qu'on ait vraiment ces sons, je trouve que c'est...
Mais avant de parler de cet album, qui porte bien son nom, hein, Tikkunen, ça veut dire étonnement en tamashek, avant de parler de ces riffs à la Jimi Hendrix, au fait de mélanger des mélopées du désert qu'on imagine plutôt calme, zen, avec quelque chose d'industriel. Avant tout ça, parlez-nous de votre initiation à la musique Touareg au Niger, Anana Haruna. Comment vous avez appris à jouer, à chanter?
En fait, la première fois que j'ai découvert la guitare, c'est en 88. La guitare vraiment chantée par dans la langue touareg, tamashek. Et j'ai découvert ça parce qu'il y avait le groupe Tinariouen qui a enregistré des cassettes à Libye, donc ils envoient des cassettes partout pour un peu faire la sensibiliser la population par rapport à leurs problématiques politiques et à leur mode de vie. Donc c'est là que j'ai découvert la guitare et j'ai vraiment beaucoup
C'est par Tinariouen que vous êtes arrivé à la musique?
C'est là que vraiment j'écoutais la cassette d'Intéyedin, c'est un membre de Tinariouen qui est vraiment décédé en 91, que j'ai eu la chance aussi de voir avant juste sa mort. C'est ça qui m'a donné envie d'apprendre la guitare. Après, j'étais en exil à Libye. Et en Libye, il y a plein de jeunes qui jouent. Le groupe Tinariouen, ils étaient là comme japonais et tout ça. Donc, j'assiste toujours à leur concert. Et aussi, pendant la rébellion, dans les années 93, au Niger 92, dont je fais partie. Donc là, chaque soir, il y a un musicien qui joue. Et je suis tout le temps là pour écouter, pour observer comment elle joue. Donc, je commençais à apprendre la guitare de là.
Mais vous avez appris tout seul ou bien vous aviez eu un maître ou...
Non, j'ai appris tout seul comme ça en regardant. Donc, après, j'ai acheté ma première guitare que j'ai eue, que j'ai échangée avec un ami, avec une post-radio à Tamarasset.
Ah, c'est ça, le troc. Donc, on a fait un troc. Je donne mon post-radio, je donne ma guitare. Ouais.
Je lui ai donné mon post-radio, il m'a donné une guitare. Je me souviens, il manquait deux cordes. Comme il n'y a pas aussi de cordes, donc j'ai mis des cordes, les freins de vélo. Donc j'ai fait des cordes avec ça. Et avec ça, j'ai commencé à jouer. J'étais vraiment très, très content parce que pour moi, c'est ma première guitare. Et je dors, je me réveille avec ça et je fais que jouer.
Et la poésie, les paroles, vous repreniez Tinariouen ou d'autres chanteurs déjà établis ou déjà vous commenciez à improviser vos propres paroles?
Ouais, au début, en fait, je commençais à jouer des chansons déjà de Tinariouen ou d'autres artistes qui sont là. Et que, quand j'ai eu ma guitare, après j'ai composé ma première chanson qui s'appelle Tamiditine.
Ça veut dire?
Mon amour, parce que j'étais amoureux d'une fille, donc je lui ai composé cette chanson et que c'est parti de cette chanson que je commençais à composer. Je pense ça arrive comme ça parfois sans se rendre compte, parce que quand les paroles arrivent, ça arrive avec dans la situation dans laquelle nous sommes.
Alors depuis Tinariouen, c'est vrai qu'il y a un renouveau de la musique touareg où on a l'impression que le rock s'est imposé, hein, notamment avec les guitares, avec les riffs de guitare, c'est assez fort. Dans mon esprit, c'est parce que ça accompagnait des chants de contestation. Mais en réalité non, puisque vous-même vous nous dites Anana Haruna que vous faites des chansons d'amour et pourtant la musique elle est rock.
Oui, la musique, le rock. En fait, le son rock, c'est que c'est vrai, quand on passe d'une guitare acoustique et d'une guitare électrique, c'est différent. Parce qu'avant, en fait, tous les cassettes qui ont été réalisées avec du groupe comme Tinariouen avant, ce sont des cassettes acoustiques. Et après un moment, on a envie, en fait, que ces sons va loin. Donc, on utilise des guitares plus électriques parce que c'est très fort. Et qu'avec cet album, nous, aujourd'hui, c'est un autre son qui est pour nous un nouveau son de la musique touareg, parce que ça va encore plus fort avec des influences comme les Zeppelin et tout ça.
Vous avez écouté quand vous étiez enfant?
J'ai écouté les Zeppelin, ouais, j'aime beaucoup. Et j'ai écouté les musiques de rock que j'aime beaucoup. C'est vrai, quand on est à. Avant d'arriver en Belgique, ces sons, on les écoute, mais on n'imagine pas comment ça peut être et tout ça. Ici, quand on découvre aussi, comment on peut arriver à faire des sons comme ça, c'est vraiment quelque chose de très. De très bien, surtout quand on rencontre des gens qui se connaissent aussi dans des sons comme ça, comme Soufiane
Ben Youssef,
qui a participé au son de cet album. Vraiment, c'était.
Vous, en tant que Tunisien, Soufiane Ben Youssef, vous êtes entre les deux. Hein. Vous connaissiez bien sûr toutes les musiques africaines et vous étiez assez ouvert au rock qui devait effectivement accompagner votre adolescence, non?
Exactement. J'ai joué du rock quand j'étais adolescent.
Où ça?
En Tunisie, à Tunis.
En arabe ou
non,
vous repreniez
à l'époque on faisait des covers, mais il y avait toute une scène, c'était je pense la première un peu première scène métal ou rock en Tunisie à l'époque et oui, on était jeunes et on faisait ça. Et donc voilà, mais après j'ai switché vers d'autres musiques aussi et donc oui, j'étais un peu sur les deux rives plus ou moins. Mm-hmm.
Est-ce que vous parlez que d'amour dans votre album, Anana Haruna?
Non, dans mon album, il y a qu'une chanson ou des chansons d'amour. Mm-hmm. Le reste, ce sont des chansons en fait, qui parlent aussi de l'actualité de ce monde, qui parlent de toutes ces guerres, qui parlent de la paix, qui parlent des injustices. Donc je pense, nous, c'est ça en fait la musique touareg, elle est commencée en fait, c'est une musique de révolte. Donc ça reste toujours nos messages, ça reste toujours des messages en fait qui parlent un peu de l'actualité, un peu révolutionnaire, des choses qui nous révoltent à nous, parce que c'est vrai dans le monde d'aujourd'hui que quand on regarde autour de nous ce qui se passe, c'est vraiment très triste. Et je pense on n'a pas le choix, donc on est de ne pas sortir ce qu'on ressent ou ce qu'on voit tous les jours.
Alors comment vous faites, Soufiane Ben Youssef, parce que je suppose que vous ne comprenez pas Tamashek. Mm-hmm. Oui ou non?
Non, je ne comprends pas Tamashek, mais je demande régulièrement à Anana de me traduire.
Ouais.
En tout cas, avant de commencer à travailler sur les chansons, on passait par les textes et j'essayais de comprendre la chanson, elle veut aller où, pour pouvoir mieux la servir et avoir une certaine justesse dans la proposition.
Et puis enfin, comment dit-on en tamashek, un autre jour est possible. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, ça va retrouver bien sûr sur franceculture.fr pour la réécoute en ligne ou le podcast. On se retrouve demain pour la suite de notre traversée du désert avec Michel Pierre. Et en deuxième partie, demain, je recevrai Alain Chiffre. Bonne matinée sur France Culture. Prochain concert de Kelassouf à Paris, le 3 juin, au New Morning.